C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler curation et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut à tous. Vous constatez que nous avons notre petite voix du lundi matin. Ceci est donc quasiment en direct.
Voilà, oui, bah oui, petite voix du lundi matin. Je sais que tu as eu un week-end un petit peu mouvementé. Moi, c'était très sage, par contre.
Ouais, tu t'es reposé.
Ouais. On a notre virée à Annecy nous a crevé. On va faire simple. allez, avant d'attaquer les amis, on va parler donc curation. Bah oui, parce que pour être visible aujourd'hui dans un paysage numérique extrêmement concurrentiel, la fréquence de publication, c'est un enjeu clé. Savoir être constant, savoir publier de manière fréquente sur les plateformes sociales. Sauf que pour maintenir ce flux constant, il y a forcément un moment où on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir publier comme contenu qui soit intéressant, qui apporte de la valeur ajoutée sur les réseaux sociaux et conserver l'intérêt de mon public, de mon audience. Et c'est là où la curation peut être utile et il peut être stratégique d'incorporer la curation dans votre stratégie social media.
Ouais, le défi est alors double, hein. On doit continuer à créer parce qu'il faut quand même rester créateur de contenu et apporter une propre valeur ajoutée, mais aussi savoir se démarquer et maximiser la connexion qu'on a entre nos followers, les personnes qu'on suit et toutes ces personnes qui se disputent notre attention et les choses qu'on publie.
Ouais, déjà, on pourrait expliquer ce que c'est exactement la curation. Hein. Ben, la curation, c'est une pratique qui consiste à effectuer une veille sur un domaine d'activité et puis ensuite sélectionner dans cette veille l'information qu'on peut considérer comme pertinente pour son audience et puis évidemment la diffuser, la rediffuser. En gros, c'est un peu comme de l'agrégation de contenu.
Avec en plus une dimension d'enrichissement où on va chercher à récupérer quelque chose qui a la même valeur que ce que nous, on publie habituellement.
Ouais, c'est ça. Il faut bien distinguer veille et curation. C'est quand même pas la même chose.
C'est rester attentif à tout ce qui se passe en permanence, même si c'est très précisément sur notre secteur d'activité. Mais la curation, ça va être plus ce que nous, on est capable de rediffuser et ce que notre audience cherche à voir.
Ouais, c'est ça. Ce qui m'intéresse, moi, en veille, est peut-être pas exactement la même chose qui intéresse mes audiences curation. Donc ça, c'est la grosse différence, elle est dans l'objectif. L'objectif de la curation, c'est surtout de trouver des informations, des contenus qui sont susceptibles d'intéresser mes audiences, les internautes, et puis aussi de se les réapproprier en apportant un point de vue, une lecture dessus.
J'ai deux. Dans ce cas-là, pour se refixer bien correctement sur la curation et ce qu'on souhaite diffuser, il y a deux questions à se poser pour trouver le bon contenu de curation. Pourquoi est-ce que les gens me suivent ? Ils nous suivent parce que pour ce qu'on dit, pour les informations qu'ils reçoivent en vous suivant, les valeurs et la peine que leur confère la valeur ajoutée que vous fournissez quand ils voient le travail que vous avez fourni sur quelque chose. Et la deuxième question, est-ce que vous avez trouvé le contenu que vous venez de lire utile, auquel cas vous pouvez le partager et votre audience le trouvera utile. Si vous ne l'avez pas trouvé utile, c'est pas la peine de le partager.
Voilà, alors où est-ce qu'on fait de la curation ? À peu près sur toutes les plateformes sociales. On peut en faire évidemment sur LinkedIn. Moi, je pense tout de suite à LinkedIn et à Twitter, qui sont deux super outils pour partager du contenu qu'on a identifié dans sa veille et qu'on imagine repartager avec un point de vue sur LinkedIn ou Twitter, mais ailleurs aussi. Alors Facebook, peut-être un peu moins, parce qu'on le sait maintenant, les liens sortants, tout ça, l'algorithme, c'est pénible. Mais...
ça me fait rire. Ça peut se faire sur Instagram aussi. Instagram, vous avez beaucoup de comptes qui sont composés uniquement de Regram, c'est-à-dire qui repartagent des contenus externes et ça devient des comptes de curation en fait et ça fonctionne très bien. Ça apporte énormément de likes à des communautés qui peuvent ne chercher que ça.
Ouais, voilà. Donc allez, on va vous faire une petite liste de tips si vous souhaitiez intégrer la curation dans votre stratégie social media. La première qu'on pourrait donner, c'est celle de rester focus sur son expertise.
Excuse-moi, je suis perdu dans mes notes.
Donc je disais, focus sur son expertise parce qu'effectivement, vous êtes influenceur de votre expertise. Vous êtes le référent sur cette expertise. Donc qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être de la veille de tendance sur mon marché. Ça peut être de l'actualité pure et dure sur mon marché, sur mes, pourquoi pas sur ce que font mes partenaires, mais tout simplement sur le légal lié à mon métier, etc. Des best practices aussi.
Ouais, les bonnes pratiques, c'est toujours bien. C'est un peu evergreen. C'est du contenu que tu peux utiliser toute l'année. Quand tu as un trou dans ton programme, eh ben, tu vas ressortir, je sais pas, le top 5 des comptes Instagram qui parlent de ça ou de manuels d'utilisation. Donc ça marche toujours très bien.
Ouais,
ça.
Et puis dans les best practices, tu peux aussi avoir de la curation. Souvent, la crainte quand on a une boîte et qu'on fait de la curation, c'est de se dire ouais, mais j'ai pas envie de parler de ce que font mes concurrents. Effectivement, c'est pas vraiment l'objet. Par contre, on peut avoir des best practices dans d'autres pays et c'est ultra cool à raconter en curation et ça montre aussi que vous êtes en veille et que votre veille elle va au-delà de votre marché domestique et donc qu'est-ce qui se passe en Norvège sur mon marché voilà, ça c'est juste des petites astuces. Autre tips évidemment c'est celui de faire du contenu utile, de diffuser du contenu utile.
Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où vous trouvez le contenu utile, votre audience le trouvera utile, il faut que ça lui apporte qu'elle ait une valeur ajoutée à lire ce contenu.
Voilà, et pour que ça soit utile, eh ben, il faut y apporter sans doute votre propre vision, en tout cas votre lecture. Ça, c'est vraiment la clé hein, d'une bonne curation de son contenu, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de partager des liens, mais aussi d'y ajouter eh bien, un titre, une accroche, un commentaire, un point de vue, en tout cas, donner votre avis en tant que curateur sur le sujet.
Voilà, et c'est votre point de vue d'humain, on va dire, qui va être important. Pas seulement repartager quelque chose, montrer que vous avez la capacité d'expert de le lire, de l'analyser et de le retranscrire à quelqu'un de manière rapide, courte et intelligente.
Ouais, moi je trouve qu'il n'y a rien de pire que ces comptes Twitter ou ces pages LinkedIn qui en fait on voit très bien, hein, c'est une agrégation de flux RSS, ça a été balancé via un Hootsuite, un Buffer ou un Agora Pulse et c'est automatisé et en fait à un moment donné qu'est-ce que j'apprends exactement, ça je l'ai déjà dans mes propres outils de veille. Moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi tu vois, en tant que marque, tu me proposes ce contenu, qu'est-ce que tu as à apporter en additionnel comme vision. Donc ça, c'est vraiment le gros truc. Hein.
Et toi, la petite ligne de description ou d'analyse que tu vas mettre en dessous, en fait, elle fera toute la différence parce que ton audience, elle voit cette actu, bon, je l'ai déjà vu ailleurs, à la limite. S'il n'y a pas ta description, elle n'ira jamais cliquer. Mais s'il y a ta description, par contre, elle peut choisir de cliquer ou pas sur l'article.
Ouais, c'est ça. Et ce qu'il faut bien entendre, alors bien souvent, on se dit, ouais, curation, c'est fastoche, ça me permet de publier plein de contenu sans trop me casser les pieds. Bah, c'est pas tout à fait vrai, hein, parce que dès lors que vous devez choisir vraiment le contenu qui peut plaire à votre audience, derrière y offrir une vision, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir lu le contenu, et donc à partir de là, ça prend du temps hein, de faire un beau contenu de curation, alors sans doute moins que de créer du contenu vidéo, du contenu infographique, etc. Mais voilà, ne sous-estimez pas la mission quand même.
J'ai un exemple, quand tu parles de bien avoir lu le contenu, voilà, l'idée c'est vraiment de partager que le meilleur contenu que vous trouvez, il y a par exemple, Levi's qui a fait une pub il n'y a pas très longtemps qui a été jugée insensible au poids. On n'avait que des personnes très fines et ça avait fait un énorme tollé. Alors si toi, dès le début, tu vois la campagne, tu dis « Oh, c'est Levi's, ça va être bon, je le partage », au final, ça peut faire un tollé sur ton audience et c'est pas terrible pour toi.
Ouais, tout à fait, ça c'est exactement ça. Allez, autre astuce, jouer la carte du social. Eh bien oui, on parle de contenu de curation en diffusion sur les réseaux sociaux. Donc évidemment qu'il faut qu'il y ait une approche de social media optimization. Comment faire en sorte que votre contenu, eh bien, il joue la carte du social, alors c'est aussi simple que ça. Quand je partage un contenu, eh ben déjà je tag le créateur original, hein, ça semble quand même la base.
Ça, c'est la politesse numéro un.
Mais peu de gens le font. Hein. Déjà, d'une, c'est l'étiquette, on va dire, qui veut ça. Et puis de deux, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir créer des liens potentiellement avec d'autres créateurs de contenu, avec des créateurs de contenu, donc ça, c'est intéressant. Et mieux encore, eh ben, tu peux même carrément, une fois que tu l'as publié, lui dire ben, le contacter en MP, alors sur LinkedIn, sur Twitter.
Merci pour ton article, c'est cool.
Super intéressant, on a repartagé. Cool, n'hésite pas à nous envoyer des choses si t'as de l'additionnel sur ce sujet, etc.
Tu parles de mention, dans le cas d'Instagram par exemple, il faut aussi penser à mettre que c'est un rigramme. Éventuellement, un hashtag rigram peut être... c'est très courant dans ceux qui font des comptes de curation. Et c'est important de le mettre, comme ça montre bien que c'est pas toi, que t'es au courant, que c'est pas ton image, et voilà. Légalement, c'est mieux.
Ouais, voilà. Et puis, c'est toujours bon d'entretenir du contact. Donc, jouer la carte du social, hein, c'est pas juste, je pique un contenu. Et alors, surtout, ne faites pas l'erreur de piquer une image qui vous plaît et de la retravailler, d'enlever, par exemple, le petit copyright qui était sur l'image, etc. Surtout pas.
De la rogner pour l'enlever.
Ah ouais, non, ça, c'est la catastrophe. Si vous empruntez du contenu, respectez le contenu et surtout, avertissez la personne. On sait jamais si la personne se dit « Ah non, surtout pas, attends, c'est mon contenu. » Vous pouvez toujours faire machine arrière. Voilà. Ensuite, autre tips, eh bien, attention à panacher curation et création de contenu. Ça, c'est quand même un truc auquel il faut faire attention, évidemment. Ne balancez pas que de la curation parce que vous allez être dans un... Finalement, votre contenu va devenir totalement s'essouffler et puis la lecture de marque va être difficile.
Bah, il faut montrer aussi sa légitimité propre à faire du... C'était un pléonasme, ça.
Légitimité propre, ouais, ouais, ça, un petit peu, ouais. Ça y ressemble.
à créer aussi du contenu, à être un expert, c'est pas le tout d'avoir des beaux commentaires d'experts, en effet, mais t'aurais pu les piquer ailleurs. Donc si toi, t'arrives à faire des articles Pinterest, par exemple, LinkedIn, des articles Facebook, par exemple, qui sont faits par toi, là, on verra que t'as une légitimité sur tout le reste de ce que tu publies.
Ouais, il y a ça. Et alors, à ce sujet, hein, je suis tombé sur une étude de la société Argyle Social, on vous met le lien en note de cet épisode, qui dit un truc très intéressant, qui dit: les publications social qui pointent vers des sites tierces, eh bien, génèrent 33% de clics de plus que celles qui pointent vers le site des marques propriétaires. En gros, si je balance un contenu de curation, il y a plus de chances, 33% quand même, de chances que les gens cliquent dessus que quand c'est un lien qui pointe vers mon site. Ce qui semble assez logique parce qu'en fait, bien souvent, ça va ouvrir un petit peu la dimension éditoriale de votre contenu. Vous allez parler moins de vous, sans doute, et donc ça intéresse davantage vos audiences. Donc ça, c'est le truc intéressant à noter. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est quelle part hein, on peut incorporer de curation dans son social. Évidemment, pas 100%. Alors là, juste pareil, une petite étude qui a été faite par Curata, qui est une solution de curation en ligne. Hein, c'est une espèce de software de curation. Ils ont fait une petite étude, une petite recherche sur un certain nombre de comptes social media, de grands comptes, hein, et voir comment, quelle proportion de curation, contenu curé, ils mettaient dans leur social. Je vous mets le lien vers cette étude et elle dit que le bon ratio, eh bien, c'est 75-25, 25% de curation, soit 75% de contenu créé. Alors évidemment, ce n'est pas une vérité universelle, hein, ce n'est pas une certitude, mais ça vous donne déjà un ordre d'idée. Hein. Évidemment, il faut que ça soit minoritaire dans votre contenu.
De toute façon, il faut tester, c'est comme tout en social media. Déjà, vous pouvez peut-être commencer par un 50-50, vous allez voir si vous avez la capacité d'en faire plus en termes de soit de création, soit de curation, et ensuite vous ajustez en fonction des retours de votre audience.
Voilà, mais en tout cas, faites gaffe, attention à ne pas tomber dans un puits sans fond avec exclusivement du contenu de curation. C'est cool pour meubler, c'est cool pour garder le lien avec votre audience quand vous êtes un peu perdu, mais ça doit venir s'intercaler au milieu d'un contenu éditorial qui est travaillé, hein, qui est de la production de contenu maison. Autre chose qu'on peut dire, on l'a déjà suggéré, eh bien, c'est de rester focus sur ses audiences en pensant bah, peut-être en catégorie. Alors, je m'explique. On le sait, hein, on vous le redit, il y a des personas. Vous adressez à une audience, cette audience elle est définie par un certain nombre de personas, c'est les portraits robots de votre audience type. Eh bien, pourquoi pas imaginer différentes catégories hein, pour parler à ces personas et créer de la curation qui soit spécifique, c'est-à-dire pas exclusivement parler de son marché, mais peut-être qu'on peut élargir un petit peu son périmètre éditorial. Alors j'ai quelques idées là-dessus, et surtout je suis tombé sur un cas pratique qui explique bien ça, ça s'appelle SanDisk. Tu vois SanDisk?
Oui, c'est ils fabriquent pas des clés USB, des choses comme
c'est
ça.
C'est ça, ouais. Tu sais, ces petites cartes mémoire que tu vas mettre dans ton tel ou
appareil
dans ton
photo,
appareil photo. Et puis ils ont des petits disques durs externes, un SanDisk marque spécialisée donc dans le stockage. Et là, comme tu peux l'imaginer, eh bien le stockage de données, c'est pas forcément l'industrie la plus ouf,
sexy. Hein,
sexy. Et si tu fais que de la curation autour de ton marché, c'est quand même pas ultra passionnant. Et en fait, si tu vas sur le compte Instagram de SanDisk @SanDisk, eh bien là, c'est assez rigolo, c'est intéressant parce qu'ils vont plus loin que juste la photo de leur photo de produit ou des infos sur leur marché. Ils mettent des photos de photographes. Alors ça peut sembler un peu étrange au début de se dire bah, c'est une boîte de stockage de mémoire, pourquoi ils mettraient de la belle photo de photographe. En fait, c'est extrêmement cohérent, hein, c'est qu'une bonne partie de leur clientèle, bah, ce sont des photographes.
Ouais, et donc puis forcément, cette image a été prise par SanDisk. Voilà.
Et voilà, quasiment.
A été donc, stockée chez SanDisk.
Et donc, comment faire en sorte d'intéresser mon audience, qui est une audience de photographes en majeure partie? Eh bien, je crée une catégorie dans mon contenu de curation qui s'appelle photographe, et là je vais mettre des super belles photos qui peuvent parler à mon audience de photographe.
Voilà, il est super cool hein, leur compte d'ailleurs, faut profiter pour jeter un œil.
Le compte est pas mal, ouais.
Y a un autre tips de base dans la curation qu'il faut pas. Là, on parlait justement de nos audiences, comment faire pour les intéresser. Il peut être intéressant aussi d'exploiter son réseau existant parce que notre réseau, le réseau de ce qu'on suit déjà initialement, ça doit être une source constante de contenu de qualité. Ça veut dire que sinon, tu suis quelque chose qui t'intéresse pas à la limite, donc tu peux le dégager et repartager, comme on le disait tout à l'heure avec les mentions, repartager le contenu de personnes que vous suivez ou qui vous suivent déjà, ça permet d'établir une connexion supplémentaire entre vous. Donc utiliser son réseau.
Ouais, la curation, c'est un super moyen de tisser du lien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du social, hein, la curation. Donc c'est cool, c'est pour ça qu'est fait le web. On partage des contenus qui nous plaisent. Donc c'est cool d'intégrer de la curation dans son éditorial. Allez, dernier tip, ce qu'on peut donner, c'est adapter les formats. Pensez à adapter les formats. Là, il y a vraiment des cartes à jouer là-dessus. Hein. Transformer un contenu de curation en contenu social media natif. Par exemple, si j'ai un super article qui parle de mon industrie et qui est très intéressant, ça peut être cool de le transformer en story Insta, pourquoi pas, en micro vidéo à la brute, le fameux format avec, tu sais, les sous-titres. Et là-dessus, je vous donne juste une super astuce, allez checker ce site, Lumen 5 en français, lumen5.com, je vous mets le lien en note de cet épisode. C'est un super soft en ligne, un SaaS qui vous permet de transformer un article en vidéo. C'est ultra bien fait et c'est un super moyen là aussi de muscler sa curation et de commencer à apporter une valeur ajoutée additionnelle à sa curation.
Bon, alors faut pas aller trop loin dans les articles en vidéo. Parfois on a des trucs qui durent une heure avec une image qui se dézoome lentement d'un truc qui vient de TF1, donc ça, faites attention à la façon de le faire. Tu parlais d'Instagram, tu peux par exemple repartager le post en story en tout petit et puis ensuite en dessous écrire ton analyse, ou alors même face caméra, alors que ça soit sur Insta, sur Facebook ou ailleurs, parler d'un sujet, afficher le post et ensuite faire ton analyse face caméra de ce que t'as vu ou lu.
Exactement, et là t'es dans un vrai apport d'expertise, là tu nourris vraiment ton social media tout en faisant de la curation. C'est, je pense, une stratégie très maligne à incorporer dans son social media. Quelques petits outils de curation. Parce qu'il y en a quand même des outils. Il y a des outils pour te faciliter la vie.
Eh ben, il y a un outil que nous, on utilise à peu près quotidiennement. Bon, moi, j'ai un peu plus de mal, mais Thibault l'adore, c'est Feedly. Feedly, c'est, on va dire que c'est un agrégateur de flux RSS, mais pas que. Dedans, vous intégrez tous les flux RSS des sites que vous adorez suivre, hein, des sites d'actualité, des sites génériques. Et derrière, il peut, par des mots-clés, vous ressortir les articles en catégorie. Par exemple, nous, pour le Super Daily, on a un tag qui nous permet de ressortir des sujets potentiels avec une combinaison de mots-clés qui va nous apporter déjà un premier niveau de curation sans avoir eu à beaucoup réfléchir.
Ouais, c'est à peu près ça. Et en fait, ce qu'il y a de cool, Feedly, vraiment pour moi, c'est le top du top en termes d'outils de veille. Alors, c'est pas un outil de curation, c'est vraiment un outil de veille, mais il y a des petites fonctionnalités toutes bêtes qui peuvent aider à le transformer en outil de curation, et notamment le fait que tu puisses évidemment sauvegarder les contenus localement, donc dans différents dossiers, et puis les surligner et les annoter. Et ça, c'est le début d'une bonne curation, c'est-à-dire je lis un article, je prends des notes, je souligne ce qui m'intéresse et ce qui peut intéresser mon audience, et puis j'y apporte déjà ma vision avec des notes. Pour moi, Feedly, c'est un super bon point de départ si on veut intégrer de la curation en plus de sa veille. Autre outil, hein, tout bête, mais il y a un réseau social qui est un vrai réseau social de curation visuelle cette fois.
Pinterest, hein.
Oui.
Pinterest, déjà, on s'en rend compte, même si vous ne l'aviez pas pensé avant, mais quand vous voulez faire de la déco chez vous, vous avez déjà sélectionné 10 images dans un petit dossier à part sur Pinterest. Voilà, ça, c'est de la curation. Vous avez déjà choisi ce que vous aimeriez publier dans votre salon.
C'est ça, Pinterest, outil de curation visuelle par excellence. On peut aussi utiliser Instagram pour ça, hein. Si on utilise les fonctions d'archivage d'Instagram et qu'on crée des petites catégories de rangement, hein, nous, c'est un truc qu'on utilise beaucoup, hein. On fait
bookmarks sur Instagram.
Exactement, hein. Donc on a différents dossiers, etc. Et pareil, quand on voit un truc cool, clac, on le stocke et on se dit, tiens, ça peut peut-être nourrir plus tard mon contenu et faire de l'UGC ou de la curation de contenu à forte valeur ajoutée.
Alors, on disait que tout à l'heure, Facebook n'était pas forcément l'outil magique pour la curation, mais t'as aussi cette possibilité d'archiver une vidéo. Moi, souvent, je me rappelle de rien, donc forcément, je vais voir dans les vidéos archivées ou enregistrées.
Oui, enregistrement, hein, sur Facebook.
Voilà, et du coup, tu les retrouves après dans une catégorie spéciale, donc c'est pareil, c'est super intéressant d'utiliser ça.
Voilà, les amis, vous aurez compris. Tu voulais dire
un truc. J'ai deux tout petits outils aussi sympas à utiliser. Il y a BuzzSumo. Alors ça, c'est un outil en ligne qui analyse le contenu des tendances pour qu'on voit ce qui peut être pertinent entre vos audiences et les tendances actuelles.
Ouais.
Donc ça, c'est assez sympa. je vous mettrai le lien. Et j'ai trouvé tout à l'heure une extension Google Chrome, alors à tester vraiment, Tailwind Publisher. C'est une extension qui permet de programmer ses contenus vus sur le web. Donc quand tu vois une belle image, par exemple dans un article ou un article en entier, tu peux cliquer directement pour les programmer sur Instagram ou Pinterest, les partager en direct, les programmer, les régrammer sur Instagram et même analyser des résultats de performance en sortant de cet outil.
Ok, intéressant. Voilà. Tu l'as pas encore testé ?
Pas encore.
Non ? Eh ben on va tester ça, on vous dira. En tout cas, on va le mettre en note de cet épisode, comme ça vous pourrez aller tester aussi de votre côté. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire ce matin sur la curation de contenu. Est-ce que vous aussi, vous avez une stratégie social media qui intègre la curation dans votre planning édito ? Venez nous expliquer comment vous faites ça sur nos réseaux sociaux.
Sur Instagram, Pinterest, LinkedIn.
@supernatif, on a oublié quoi ? Instagram, Pinterest,
Facebook.
LinkedIn, Twitter,
ouais.
Facebook, on est partout.
Exactement.
On est partout là où vous êtes. Et puis évidemment, vous écoutez ce podcast sur votre appli de podcast préféré. Merci à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Nous, on est époustouflés hein, du nombre que vous êtes à nous écouter chaque matin.
Alors, continuez à en parler à vos amis.
Continuez à parler à vos potes de tout ça et du super délit. Merci à vous tous.
Et on vous souhaite une très bonne semaine.
Et on vous dit à demain. Salut.
Ciao.